8h dans le bureau de Par Jupiter.
Salut les amis.
Salut Charline. Pourquoi il fallait venir si tôt aujourd'hui?
Parce que l'invité c'est Jean-Christophe Meurice.
Aujourd'hui Guillaume il s'appelle Jean-Christophe.
Ah très drôle. Voilà, justement tu devances ce que j'allais dire parce que c'est le fondateur de la troupe des chiens de Navarre.
Ah mais j'adore. Ah ouais, c'est marrant, c'est engagé, il laisse la place à l'impro.
Voilà, donc ouais. Cette émission on va la faire selon leur principe de création, donc l'improvisation.
Ah
voilà.
Cool.
Ouais. Bah attends, tu fais quoi là?
Ah bah j'improvise hein Charline, vu qu'on prépare rien, moi je me barre, je reviens 17h, c'est là je donne tout et puis voilà.
Ah non, reviens tout de suite, enfin l'improvisation ça se travaille.
Ah bon
hein.
Et le travail ça s'improvise aussi manifestement.
Oui alors ça s'appelle la créativité Juliette s'il te plaît. Bon tiens par exemple, exercice d'impro,
ouais.
Je suis une RTT et je me suis égarée chez Pénélope Fillon, voilà.
Ouais alors attends.
Ah non on ne dit pas, quoi. Oh attends quand on improvise,
enfin, mais je cherche,
bah, ouais, je réfléchis. Mais non. Mais c'est moi qui devais dire ça, Juliette. Hein? C'était ma réplique, regarde. Guillaume, 2 points, je réfléchis.
Hein?
Bah oui.
Tu veux dire que l'exercice d'impro est déjà écrit?
Bah, regarde ton texte, c'est marqué sur la feuille A4 sous tes yeux, là. Sketch de début d'émission.
Oui, tu sais, c'est un petit dialogue à 3 personnages, dont l'un d'eux s'appelle Juliette.
Bah oui, c'est ça.
Et Juliette, c'est moi?
Bah oui.
Oui, c'est toi.
Mais alors, si on n'improvise pas le sketch en ce moment, ça veut dire que le début de l'émission, c'est pas la vraie vie?
Bah, pas complètement, Juju. C'est un sketch. Un sketch, c'est écrit, c'est
ça.
Bah
ouais, sinon ce serait une impro.
Bah voilà.
Bah pourquoi on fait croire qu'on fait de l'impro dans le sketch alors?
Mais parce qu'on est nul en impro, donc on l'a écrit.
Est-ce qu'on pourrait en revenir au sketch?
Oui, alors, ouais, début de la page 2, Juliette, 2 points.
Ouais,
tu veux dire que l'exercice d'impro, il est déjà écrit pour l'interrogation.
C'est ça. Allez, on reprend.
On y va, allez, hop.
Mais cette phrase-là que tu viens de dire, allez, on reprend.
Oui.
Ça veut dire qu'elle était déjà écrite? Ou pas?
France Inter et bienvenue au sein de la troupe des joyeux plaisantins dont voici la devise: qui va à la chasse prend la place d'un policier municipal. Voici le sommaire. Sur les images qui font le tour du monde, on voit des familles de migrants face à des barbelés gardés par des soldats polonais, avec une large part de mise en scène puisque ces migrants sont instrumentalisés par le pouvoir biélorusse. Et ces images arrivent le soir dans nos foyers qui sont donc forcément divisés.
Papa ne peut pas être raciste.
Mais non, enfin...
Hein ? La preuve, regarde, il adore les Allemands.
Le carburant atteint le prix du vieil Armagnac. Alors pour compenser la hausse à la pompe et l'inflation en général, l'État propose d'offrir aux gens qui gagnent moins de 2000 euros par mois un chèque de 100 euros.
Alors, on va le placer où, tout cet argent, monsieur Tuche?
Bah dans un coffre, si possible.
La saison des films de Noël est officiellement ouverte. Qu'est-ce qu'un film de Noël? Un film qui transpire l'esprit de Noël, les valeurs de Noël et qui sent le sapin. Mais en bien. Avec potentielle apparition du Père Noël. Et c'est quoi le Père Noël?
En tout cas, c'est une personne qui aime le cul.
Quoi?
Le rouge.
Bravo, madame, à mes côtés
c'est
aujourd'hui, bravo,
Noël.
Juliette Arnaud,
bien sûr. Oui, et Charline, nous avons convoqué en l'honneur
elle
de notre invité.
Au moment où
elle
s'arrête
de parler, arrêtez de dire qu'elle boit. Elle ne boit pas.
Elle boit de l'eau, mais elle boit.
Voilà. On a convoqué donc en l'honneur de notre invité et du titre de son film, une équipe d'agrumes. Avec d'abord toutes les influenceuses beauté le savent, il faut commencer sa journée par un jus de citron adouci avec de l'eau chaude. Et ce qu'elles savent moins, les influenceuses beauté, c'est qu'en fin de journée, il faut du citron à sec. Et le voilà, c'est Walidia.
Je suis donc du citron.
C'est intéressant.
Je suis très content. J'ai que des bonnes nouvelles aujourd'hui, comme d'habitude, de la volupté, de la douceur, de l'allégresse et des. Et non, c'est toujours pas
et
vrai.
Et je n'y crois toujours pas. Ensuite, le pamplemousse, le seul agrume dont traditionnellement, rappelez-vous, vos meilleurs souvenirs de cantine, on calme l'amertume avec du sucre. Lui, c'est avec le miel de son sourire. Bon, on est à la radio. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Juliette, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du débat de la droite d'hier soir que les gens ont suivi, ils étaient passionnés. Je suis allé les voir ce matin.
Oui, bon, je suis pas pro-Zemmour, mais...
Ah, alors, je suis pas pro-Zemmour, mais je suis pas raciste, mais vous allez voir.
Et enfin, là, notre dernier agrume, le limquat. C'est un fruit hybride entre la lime et le kumquat. C'est peu connu, ça a la peau douce, mais le fruit est acide. Soit l'équilibre des saveurs cher à l'émission Par Jupiter. Voici donc un rookie qui a tout compris. Bienvenue Léo Carman.
Merci, je suis très content. Est-ce qu'on peut me mettre dans un cocktail?
Bien sûr, on peut mettre du vin dans un cocktail.
Alors c'est très bien, je vais parler du film de notre invité. Je suis ravi de pouvoir en parler.
Ah oui, car voici celui qui va allumer la mèche de l'actualité. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes...
Jean-Christophe Meurice.
C'est vrai.
C'est pas facile. C'est tout bon.
Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Jean-Christophe Meurice. avec deux S, vous.
Oui.
Vous êtes le fondateur, pas de lien entre vous deux, fondateur de la troupe théâtrale Les Chiens de Navarre. Votre premier long métrage s'intitulait Apnée. On passe pas mal d'extraits dans cette émission d'ailleurs, qui illustre l'actualité toujours. Et voici le deuxième long métrage qui s'intitule Orange Sanguine, au pluriel. Une satire sur la société et sur la politique qui piétine allègrement les plus faibles. Ici, un couple de sexagénaires surendettés qui mise tout sur un concours de rock pour rembourser la banque. Là-bas, une ado qui croise la route d'un détraqué sexuel et pour incarner le politique, un ministre de l'économie qui n'a pour compétence avérée qu'un montage fiscal et pour talent la corruption. Donc, satire sociale, pamphlet politique, comédie noire, tout ce qu'on aime, donc, d'une liberté folle, rarement vue au cinéma, qui est même trash, et interdite aux moins de 12 ans. Vous vous êtes mis aucune limite, Jean-Christophe Meurice, ou vous avez aussi un peu cherché à dépasser celle que personne ne s'autorise à faire dans le cinéma?
Je me rends pas compte parce que moi ma limite c'est mon plaisir et l'intelligence des situations jouées par les comédiens que j'ai écrites. Donc voilà, je me pose la question depuis 10-15 ans parce que au théâtre pareil on improvise, on cherche et vraiment la limite c'est le plaisir et l'intelligence. Alors ça fait déjà beaucoup mais voilà, non, je
parce que limite c'est aussi pas que dans le trash, c'est dans la créativité, dans la part qu'on laisse.
Alors ça je me rends pas compte mais en tout cas oui, de toute façon, raconter des choses tristes, révoltantes, avec le rire, c'est assez laborieux finalement. Parce que c'est toujours à cette frontière-là où on pourrait autant rire que de pleurer des situations que je montre, que je filme. Enfin, voilà. Donc c'est, ça, au fond, ça part de quelque chose de très impulsif, de ricaneur, parce que je crois à la puissance sauvage du rire. Je pense que c'est ce qui nous reste face au pire, hein. Face au pire, le rire, disait Beckett. Et ça, je crois vraiment, c'est notre fusible face à l'horreur et donc mais ça après les répétitions, après les tournages, c'est le temps du montage et ça c'est le temps de la pensée, de la réflexion pour savoir jusqu'où on va de manière intelligente.
Ça sera d'ailleurs intéressant de le voir en salle parce que la réaction des gens, je suis sûre qu'il y a des scènes où il y a une partie qui va éclater de rire.
Ouais.
Et l'autre qui ne rira pas forcément, et inversement à d'autres situations. Ça va être assez passionnant.
Ça arrive souvent, ouais, dans mes spectacles ou dans le film, c'est que y a les gens rient, mais pas au même moment. Donc, ce qui fait qu'il y a des combats de spectateurs entre eux. Pourquoi tu ris là? C'est
mais
pas
oui,
drôle.
Ça va être très très fun à voir en salle.
Je cherche l'activité du spectateur à tout prix, ouais, pour que je laisse une. Oui, effectivement, la liberté, c'est ça, c'est de laisser un peu le spectateur aussi actif face à ce qu'il voit.
Il y a donc notamment un couple de sexagénaires endettés, menacés de vendre la maison.
Oui.
C'est inspiré de votre histoire familiale, ça. Alors, comment arriver à avoir le recul suffisant nécessaire à l'humour quand ça vient de sa propre histoire?
Oui, c'est pas totalement. Oui, c'est ma propre histoire et en même temps, c'est des faits divers qui sont passés en 2010. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en Europe, il y avait une vague comme ça de suicides de retraités, pré-retraités, de seniors qui étaient surendettés à cause de crédits revolving qui s'accumulaient. Ils savaient pas quoi faire de ça. Ils disaient oui, je vais refaire mon jardin, je vais refaire une véranda et tout ça. Et au bout d'un moment, bah, ils étaient mangés par ça et les créanciers, vendaient leur maison. Et il y a eu en Italie, en Espagne, en France, en 2015, et au lieu de vendre leur maison qui représentait tout, leur vie, leurs enfants et tout ça, ils se tuaient dans un geste de colère et aussi, je trouve, de romantisme. Maintenant, il y en a moins parce que je me suis renseigné sur le recouvrement et ils ne saisissent plus les maisons. Enfin, ils essayent à cause de ça. Et moi, effectivement, ça me touche plus particulièrement parce que mes grands-parents ne se sont pas suicidés, mais il leur est arrivé la même chose et ils ont vécu à 100 mètres dans un petit appartement à côté de la rue où mon grand-père est né. Donc il en est mort un peu de tristesse, si je dis ça là, intimement tout d'un coup à 5h15 à France Inter. Mais effectivement, ça m'a beaucoup touché et j'avais envie aussi de montrer quelque chose à travers ça. Ouais.
Juliette Arnaud.
Alors ça, c'est pour les plus humbles d'entre nous, mais il y a aussi les plus puissants. Et il y a une dénonciation d'un truc dont les féministes et une certaine partie de la presse ont avait révélé au cours des dernières années du quinquennat, qui était le fait que Macron, notre président, gouvernait en boys club. Et là, le boys club, on le voit très très bien dans votre film, notamment avec le personnage de Podalides, qui dit des phrases magnifiques comme « l'humilité, c'est de la merde » et ouais. Toujours flirter avec l'indécence. Donc il y a des scènes terribles comme ça, dans des endroits assez... Alors parfois c'est au ministère, parfois c'est dans un sauna.
Ministère de l'économie, et Podalides joue l'avocat.
Ouais. Pour vous, c'était vraiment...
de dévoiler précisément ce que peuvent potentiellement se raconter les puissants entre garçons.
Oui, enfin, en tout cas, c'est ce qui m'intéressait, c'était de mettre en écho entre ces seigneurs qui perdent leur maison parce que voilà, et on les aide pas, on les abandonne, il y a quelque chose comme ça. Et pendant ce temps-là, on cache des fraudes, on fait de la communication assez cynique, on rigole derrière. Enfin voilà, c'est un peu manichéen. Il y a quelque chose dans mon film qui est un peu un western avec des grands méchants et sans doute. Mais en même temps, c'est la réalité, quoi. C'est-à-dire, si je répétais ce que disait Van Gogh en disant quand il disait c'est pas moi qui suis triste, c'est le monde qui est triste. Là, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui suis violent, c'est le monde qui est violent. Parce que vraiment, c'est une réalité. Hein, pendant que, voilà, c'est le broyage. Non, c'est montrer surtout, ouais, un certain cynisme. Ils sont pas tous comme ça, je l'espère encore, mais il y a un certain cynisme politique. Ouais.
Vous avez été bien conseillé pour les arcanes du pouvoir, j'ai l'impression.
Oui. Vous dites ça parce que vous savez.
On a lu des articles.
On l'a lu dans la presse, donc je ne sais pas si vous voulez.
Il y a Benoît Hamon qui est venu me filer un coup de main. Ouais, parce qu'à un moment, il y a une scène où ils doivent chercher 22 milliards et il faut qu'ils aillent le chercher chez les plus précaires. Et donc, j'ai été conseillé par Benoît Hamon, qui l'a fait avec une grande sympathie, et il nous a soufflé des choses dont je ne pensais pas avant. Donc, on voit cette scène.
C'est pour ça qu'il a arrêté, d'ailleurs. Ouais.
et qu'on pourra voir dans le film.
Et quand on voit cette scène, dites-vous que la réalité est pire.
Même. Oh là là, mon Dieu. Bon, ben voilà. Avec Alexandre Steiger, Christophe Paou, Lilith Grassmuth, Lorella Cravotta, Olivier Saladin, Fred Blin, et puis la participation de Denis Podalydès, Blanche Gardin, Vincent De Dienne et Patrice Laffont. Et ça s'appelle Orange Sanguine, ça sort en salle mercredi. Réalisation Jean-Christophe Meurice, on a hâte. Hey boy, what you say boy, you tryna play coy, like a game boy, hit my phone boy, is your homeboy, are you a lone boy, come give me dome boy, got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets, sheesh, it's all Greek to me, got this boy speaking Spanish, I hit puppy, baby I don't need you. Just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my slave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I want it, yeah. I heard you a freak too. That's right. What's 2 + 2? Boys sur France Inter, programmation musicale Djoubaka. Notre invité, c'est Jean-Christophe Meurice, le fondateur de la troupe théâtrale Les Chiens de Navarre, et qui nous présente son deuxième long métrage, Orange Sanguine, pour l'entourer, Juliette.
Ben, que des boys. Walidia, Léo Carman,
Et Guillaume Meurice. Bah si, vous êtes un boy.
Heureusement, oui, l'information est un nom féminin.
Je vais t'expliquer ce que t'as pas compris. T'as pas compris que nous c'est une passion. T'as pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse. J'en ai rien à foutre de réguler.
Le journal de presque 17h17.
Et on commence par les titres.
Dans ce journal, on parlera de l'accord raté à la COP26, donc du futur réchauffement climatique, de la montée des eaux, de la disparition des espèces.
Et un bon lundi à tous.
Voilà. On parlera du président de la Fédération de chasse qui veut donner des coups de main à la police municipale.
Et un bon lundi à tous.
Voilà. Et enfin, on parlera d'un Malien qui a reçu un coup de taser dans les testicules.
Et un bon lundi à tous.
Et voilà.
Et on commence par la reprise de l'épidémie.
Oui, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a déclaré « Il n'est absolument pas question d'un reconfinement », avant d'ajouter qu'il n'excluait rien par principe.
Ouais, donc pour Gabriel Attal, un non, c'est un oui peut-être. Et c'était peut-être le prof de consentement de Gérald Darmanin.
Et il a ajouté, Gabriel Attal, dans une interview au Figaro, « La France a besoin d'un président, pas d'un énième candidat ».
Mais il a raison Gabi, pourquoi s'emmerder avec les élections alors que Macron est d'accord pour rester à son poste finalement hein.
Droite toujours, Éric Ciotti a dit qu'il voulait instaurer un permis à points migratoire. Il a fait cette annonce hier sur Twitter.
Hop, 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 ça se prononce Twitter, Madame Vanhoenacker. Moins de points déjà.
Ah,
là, sur
ah bah il m'en reste plus que 8 alors.
Allez, ouais. Moins de points encore. C'est une bonne idée, ça permet un point, je trouve.
Je vais pas rester longtemps en France. Donc, allez, politique encore, avec plus de 125 000 adhérents, les Républicains dépassent le corps électoral d'Europe Écologie Les Verts.
Quoi ? Il y a plus de gens de droite que d'écolos en France, c'est pas vrai ?
Vous vous moquez de moi, là, Guillaume.
Un petit peu.
Je me disais bien aussi. Et Christophe Castaner dénonce, lui, une extrême droitisation des Républicains.
Voilà, Castaner dénonce la droitisation. Dirais-moi qu'il me moque des habits des autres.
Présidentiel, maintenant, après la polémique sur le transfert d'agents des immigrés, Arnaud Montebourg écarte des sarkozistes de son équipe de campagne.
Ah, là, ils vont se sentir seuls, les lepénistes, dans son équipe de campagne.
Une page alcool à présent,
oui.
Car ce week-end, Willy Schrein, le président de la Fédération de chasse, a proposé de donner des missions de police municipale aux chasseurs.
Oui, on peut vraiment parler d'une bien bonne idée. Hein. Ils n'auront pas besoin de faire la formation bavure, hein. Ils ont déjà les compétences a priori.
Police toujours, Mediapart a révélé qu'un Malien a été victime d'un tir de taser dans les testicules, alors que contrairement à ce qu'ont affirmé les policiers, l'homme ne présentait aucune menace.
Ah bah si quand même.
Ah bah non.
Bah vous avez dit qu'il était Malien.
Bah qu'est-ce qui vous prend ?
Bah, Zemmour monte dans les sondages, je pense à l'année prochaine, j'anticipe.
Allez, on enchaîne alors avec ce coup de théâtre.
Ah.
Stéphane Bern a annoncé quitter Paris pour sa maison dans le Perche, car il estime que la capitale est devenue une poubelle.
Mais non.
Mais si.
Mais non. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qu'on va faire?
Non, mais qu'est-ce qui vous prend aussi là
hein? Pardon. Non, pendant un court laps de temps, j'ai cru que j'en avais quelque chose à foutre, et en fait, non. Non, non, vraiment, ça va mieux.
Ça va mieux. Heureusement. Environnement, maintenant, alors que les experts s'accordent à dire que la COP26 a été plutôt un échec, le député européen Pascal Canfin s'est félicité du chemin parcouru.
En effet, très beau chemin parcouru par Pascal Canfin, qui est passé du WWF à La République En Marche. Très beau chemin parcouru par sa veste aussi. Hein. 360 backflip, on appelle ça. Bravo à tous les deux.
Et sans se fouler en plus. Oui, international, au Japon, un conducteur de train a assigné son employeur en justice pour avoir retenu l'équivalent de 43 centimes d'euros sur son salaire.
Oui, bah, je rappelle que vous aussi, Charline, hein, vous retenez souvent 43 centimes sur notre salaire, donc c'est pas la
peine. Ça va pas ou quoi? C'est totalement
faux. Quand vous venez à la machine à café en disant « Désolé, j'ai oublié mon portefeuille au bureau, vous pouvez m'avancer », vous appelez ça comment?
Bah, de la générosité, du partage de l'entraide.
Ouais, sauf que la machine à café, elle est dans le bureau, donc techniquement, vous n'avez qu'à tendre la main pour prendre votre portefeuille, Charline.
Ouais, c'est pas la question, hein. Oui, on est de gauche ou on n'est pas de gauche?
Oui, oui, ça vous arrange.
Bon, bah voilà.
De gauche quand ça vous arrange. Pascal Pro a raison, j'ai l'impression.
Taisez-vous.
Dénoncez les choses.
Jean-Christophe Meurice, avec nous, on va aborder ce premier thème. La crise migratoire à la frontière polonaise a été orchestrée par la Biélorussie. Les images qui nous parviennent trahissent la mise en scène qui découle de cette instrumentalisation. Les migrants ont été amenés là par des avions biélorusses. Les photos montrent donc des familles frigorifiées devant des rouleaux de barbelés gardés par une rangée de 15 000 soldats polonais. Elles alimentent ces photos le débat sur l'immigration jusqu'en France. Et on connaît ses travers à ce débat en France, hein, quand des ravages jusque dans nos foyer.
Moi, je pense qu'il faudrait prendre les empreintes digitales de tous les Arabes et de tous les Noirs, enfin, de tous les étrangers qui arrivent en France par les aéroports ou même dans les gares. Comme ça, bah, quand il y a des agressions ou bien des vols, on compare directement les empreintes et ça faciliterait le travail de la police. Enfin, je sais pas, enfin peut-être.
Peut-être. C'est un extrait de Nos jours heureux, le film d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Donc les images de ces familles de migrants venues de Syrie, d'Irak ou du Kurdistan. Y a donc une instrumentalisation de ces migrants, une mise en scène qui se voit sur les photos. Vous, vous voyez cette situation avec un œil de citoyen et peut-être aussi un œil de réalisateur. Vous avez vu ces images, j'imagine.
Ouais.
Elles vous ont frappé aussi pour cette...
Ah, choqué, ouais. Ces mises en scène, c'est de regarder des gens mourir de froid, quoi. Donc on est au-delà de tout, ouais. Ouais. Enfin, c'est sans commentaire, c'est difficile de commenter ça, quoi. Oui. Tellement qu'on arrive à une absurdité folle.
En 2015, vous avez monté un spectacle avec les Chiens de Navarre, Jusque dans vos bras,
oui.
Sur l'identité nationale.
Oui.
Donc 2015, est-ce que les choses ont...
2017, c'était le moment où Macron est passé.
Ah voilà, bon, voilà. Est-ce que depuis les choses ont empiré?
Ah bah complètement, ouais.
Oui.
Bah oui.
Oui,
quand on voit maintenant
ça
ce qui se passe.
Ça fait 4 ans à peine, quand même.
Ouais. Ouais. Bah oui, complètement, ouais. Oui, j'avais fait Jusque dans vos bras, c'était sur parler vraiment de ce que c'est que ce concept un peu fumeux et fasciste de l'identité nationale. Et donc, on avait remis tout ça en cause avec
humour. Dont Sarkozy avait fait un ministère, si on se rappelle bien.
En plus, ouais. Ouais. Donc, essayer de montrer avec humour que, effectivement, la France est multiculturelle depuis la nuit des temps. Mmh.
2015, année de la grande crise migratoire, autrement plus importante que celle-ci, alors que les images essayent de nous faire croire à une vague qui va nous submerger et tous nous avaler,
oui.
Et nous grand remplacer. Vous vous rappelez de ce moment, vous essayez de vous remettre en 2015 et le gros de la crise migratoire, est-ce qu'il est vécu différemment cette fois? Peut-être un cran de cynisme en plus?
Ah bah oui, tout est bon avec les présidentielles qui arrivent, ouais. Tout est bon dans le cochon, quoi. Donc c'est oui, bah ça ne fait qu'augmenter. Enfin, de toute façon, en quoi on serait étonné? Enfin, depuis 2002, c'est comme ça. Enfin, ça ne cesse de le discours ne cesse de continuer.
Oui, donc on s'étonne plus.
De toute façon, c'est de plus en plus on évite le vrai problème qui est celui de la lutte des classes. Point. Le problème, c'est la lutte des classes. Enfin, moi, je pense ça. Donc, mais on continue de maquiller, de contourner, de nous mettre dans d'autres ruelles. Voilà, bon, je fais des jolies phrases, mais c'est ça la réalité. Et ça, c'est de pire en pire.
Vous faites des contorsions comme les barbelés.
je sais pas. Les meurismes se rejoignent.
Hein. Oui, j'avais l'impression, oui.
Le meurisme, on va monter comme vous.
Le meurisme, au secours. On va avoir droit à une tranche de walidiaïsme tout de suite. Donc, Walidia, c'est à vous.
Eh ben ouais, ça roule, mes petits racletos gauchistes, islamo-tartiflettistes, cornichons antifa. Moi, j'en peux plus de l'actu là qui tourne autour du même sujet en boucle depuis des semaines, toujours le même refrain. Et Pandora Papers par-ci, et Pandora Papers par-là. Et vas-y que ça nous rabâche le nom des 600 Français impliqués. On peut respirer, enfin. Hein, y a pas que l'évasion fiscale dans la vie, bordel. Hein, pendant ce temps-là, y a personne qui parle du véritable danger qui plane au-dessus de la société française, le wokisme. Hein. Heureusement qu'il y a les journalistes du Figaro pour alerter sur le wokisme à l'école, avec les vicelards de profs, je sais qu'ils écoutent, donc j'ai déjà dit, surpayés à rien branler, avec 4 mois de vacances par an, qui chuchotent aux oreilles de nos futurs chômeurs qu'être raciste c'est pas bien et qu'être gay c'est pas grave, mais de quoi je me mêle, hein? T'imagines plus tard le choc pour les gamins quand ils vont débarquer dans le monde des adultes avec des vrais racistes dedans, tu sais, quand ils vont se balader sur internet, qu'ils vont tomber sur Napoléon 77 ou Gaulois 22 avec une photo de profil de croisé du 13e siècle, ils vont croire qu'il y a un paquet de gens qui ont été déscolarisés à 5 ans, t'sais. Après mes chroniques, parfois je reçois des messages de la part de la team Vercingétorix. Il y en a un qui m'a marqué, c'était sale nègre, je vais te violer, je vais te tuer, et après je vais violer ton cadavre. Vous constatez comme moi que les deux tiers de son projet, c'est de me ken, quand même. Il veut me tuer, certes, mais il veut me ken deux fois. Mais concrètement, je l'excite beaucoup plus que je l'énerve. Hein. Ça doit être un raciste qui cherche. Quand il tombe sur des migrants, il doit hésiter entre les refouler, leur rouler une pelle, il sait pas, tu vois. D'ailleurs, migrants, Afrique, œuvre d'art, la France vient de rendre 26 œuvres d'art au Bénin. Ouais. Au risque de me répéter à 95 balles net la chronique, et en termes de transition, vous aurez ça. Ouais, on a rendu 26 œuvres sur 90 000 œuvres d'art qui ont été chinées pendant la période coloniale africaine. On a plus étiquette de caisse. Hein. C'est comme si quelqu'un te devait 90 000 euros après des décennies, te lâche 26 balles, il dit alors, Heureux? Merci, ça t'écorcherait la gueule? Mais pourquoi c'est 26 là? C'est ça que je comprends pas. Comment s'est passée la sélection pour qu'ils décident d'en rendre seulement 26? Et non, celle-là, regarde. Non, ça n'en touche pas, t'es fou, ça vaut de l'oseille, ils vont nous la saloper. Ah, tiens, voilà, les statuettes en plastoc, là. Ouais, c'est la boutique de souvenirs, mais ils vont pas capter. Hein, voilà, et puis mets une mini tour Eiffel avec, ça leur apprendra à vouloir nous les vendre ici. Hein, c'est vrai, qu'est-ce que c'est que ces migrants auto-entrepreneurs, là, qui refusent de faire le boulot des Français, que les Français veulent pas faire? Plus personne veut bosser dans ce pays. Il y a 13 fois plus de chômeurs que d'emplois disponibles. Donc le problème, c'est peut-être pas la flemme, c'est la gueule des emplois disponibles. Si même les clandestins veulent plus le faire, faut tout revoir. Bientôt chez Pôle Emploi, ils vont engager des mercenaires. Si tu refuses un job, ils vont venir te tabasser chez toi, comme des recouvreurs de dettes de la paix. Mais tu vas bosser, fils de pute, hein. Tu vas le prendre ce poste de manutentionnaire. J'en ai rien à foutre de ton CAP petite enfance. Tu vas me déballer le transpalette. Heureusement que dans ce contexte économique, il y en a qui savent être flexibles en termes de projets pro. Hein, les chasseurs qui proposent de devenir policiers. Hein, c'est le président de la Fédération des dégommeurs de biches qui l'a dit. Il a dit les chasseurs ont un rôle à jouer en matière de police de proximité. Mais bien sûr, hein, ils ont une demi-molle à l'idée de mettre des coups de tronçonneuse dans des petits lapins, mais on va leur confier le maintien de l'ordre. Et ils se sont dit on shoot des vététistes en pleine forêt, s'il faut décommer des scooters en roue arrière sur une route dégagée, c'est finger in the Cronenbourg. Enfin bon, vu l'ambiance générale, le reconfinement qui s'annonce à cause de la cinquième vague, pardon, je me demande si c'est pas une bonne nouvelle.
Walidia, après la revue de presse, il invente la revue de bullshit. Et il y a beaucoup de travail, beaucoup de sujets. Merci Wally. J'annonce à nos amis belges que vous jouez à Bruxelles le 10 décembre.
Exactement.
Ça c'est chez
moi.
C'est
le grand remplacement dans l'autre sens.
Et j'annonce à nos amis de Grenoble que vous jouez le 17 décembre. Et ça c'est chez vous. Et
c'est le retour au Bercail.
C'est donc deux dates importantes. Mais oui, bien sûr. Walidia, qu'on peut revoir en vidéo et partager allègrement, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup de bien. Ça devrait être remboursé par la Sécu. À venir, l'autre Meurice, celui qui fait profession de pousser les gens à dire des conneries. Il faut pas les pousser beaucoup.
Oui, il n'y a pas besoin de beaucoup de travail.
Et puis Léo Carman chroniquera le film de Meurice avec les deux S. Meurice avec deux S. C'est d'un goût douteux quand on sait ce qui est advenu de ce palace parisien à la mi-temps du XXe siècle. Dites ça, je dis rien. Allez, on écoute La Femme, Nouvelle-Orléans.
Thank you.
chante Nouvelle-Orléans sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Notre invité Jean-Christophe Meurice réalise un film qui sort en salle mercredi, Orange Sanguine. Juliette, une question pour Christophe.
Votre troupe de théâtre s'appelle Les Chiens de Navarre. Il y a deux des chiens au casting d'Orange Sanguine et il y a un plan dans votre film dont je ne dévoilerai pas le pourquoi. Un gros plan sur une tête de chien, un bulldog français précisément, qui a une activité assez particulière que je ne vais pas dévoiler non plus. Qu'est-ce que c'est ce rapport avec les chiens?
Est-ce que je pensais au cochon laineux? Je me dis non, c'est pas un chien.
Ah non, mais ça je reconnais, je fais la différence entre les cochons et les chiens.
J'avais oublié le petit chien.
Là, ça va,
c'est vrai qu'il y a un cochon laineux aussi. Il y a un gros plan, il a un très beau gros plan ce chien.
Alors le rapport avec les chiens, les Grecs, cynisme, Diogène, remettre en cause toute vérité politique, sociale, avec humour, c'était Diogène. Donc voilà, alors ça c'est l'interprétation un peu intellectuelle, mais Chien de Navarre, je trouvais que ça sonnait bien, c'était musical, comme Rita Mitsuko, ça, il y avait quelque chose. Et puis, mais après, voilà, j'aime bien toutes les interprétations. Non, les chiens, les aboyeurs...
Et connexion entre les chiens de Navarre et les deux chiens.
Et alors ça, c'est un magnifique hasard, comme Meurice et Meurice.
Mais il n'y a pas de hasard, en
fait. Oui, c'est la journée.
Comme Meurice et Meurice. C'est vrai que vous avez
les
des points communs.
Des chiens, chiens de Navarre, oui, c'est des jolies rencontres. Ouais.
Eh bien, passons à l'autre Meurice, alors.
Oui, bah, j'ai regardé le débat de la droite hier soir.
Ah, oh, c'est pas vrai.
Voilà, bah, je voulais faire l'expérience de la mort imminente. Et je me suis dit, un débat entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, un dimanche soir, un 14 novembre, c'est vraiment ce qui nous rapproche le plus d'un coma profond, vraiment, vraiment. J'ai vraiment vu, à un moment donné, un long tunnel avec au bout Michel Barnier qui faisait coucou dans la lumière comme ça. Mais c'était chouette, ils ont fait des belles propositions, autant sur le climat que sur la justice sociale, aussi en faveur du logement des sans-abri. Non, je rigole, vous ne suivez pas du tout, personne n'est concentré, mais non, pas du tout. Ça a parlé immigration, islam, couscous, chaussettes dans les babouches, re-islam, arabe, place de l'islam, re-arabe, immigration, Walidia, le visage humoristique de Daesh, islam, immigration, arabe, est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Faudel? Arabe, quartier, immigration. Voilà, alors ils regroupent tout sous une seule thématique, eux ils appellent ça la sécurité, l'insécurité. Alors pour une meilleure compréhension de l'électorat, ils font ça bien sûr, ils regroupent. Je suis allé voir, moi, l'électorat ce matin, qui a suivi ça de très près. Parlons donc de sécurité.
Les gens qui se mettent à parler étranger, moi, ils me cassent les... Quand on veut venir en France, on apprend le français. Quand on voit celui qui veut aller au Canada, il a intérêt à apprendre l'américain, parce qu'il n'entend pas.
Mais quel est le rapport avec la sécurité, alors, là, pour vous?
La sécurité, c'est comme le camembert. Si on avait écouté les Européens, on n'aurait plus de camembert, hein.
Alors, je pense que voilà, il fallait d'abord commencer par un point langue étrangère camembert, sous un aspect sécuritaire, bien évidemment. Il est urgent de maintenir notre sécurité alimentaire, d'avoir un cholestérol bien de chez nous, et de continuer la thématique de la sécurité avec un autre citoyen très attentif.
Quand vous avez dans un autobus un chauffeur qui se fait agresser par un délinquant, peu importe d'où il vient, mais enfin en général c'est quand même certaines populations.
Mais quel type de population alors?
Si vous voulez, on ne peut pas généraliser. Moi, personnellement, je connais des immigrés qui sont très bien.
Oui, c'est vrai, j'en connais aussi. Il y en a des biens, comme dirait l'autre.
Il y en a deux.
On n'a pas, oui, c'est vrai qu'on n'a pas le chiffre exact des biens. Par exemple, Vincent Bolloré, bah, c'est un immigré breton. Bah, il est très bien. C'est un nationaliste. Sa chaîne, elle s'appelle CNews. Voilà, parce qu'il trouvait que son Pinard TV, ça sonnait moins bien. Donc vous voyez, il ne faut pas généraliser. Il y a aussi des gens qui aiment le multiculturalisme. Mais puisqu'on parle de sécurité, parlons quand même prison.
Dans les prisons, il y a un très grand en surnombre des gens qui viennent de l'Afrique, ou peu importe le pays, si vous voulez. C'est pas une question de race, si vous voulez. Les gens, les Afghanistans, en Afghanistan ou au Pakistan,
ouais.
Ce sont des blancs comme nous au niveau des races.
J'ai l'impression qu'on est à la fois complètement hors sujet, mais en plein dans le sujet. C'est marrant, hein. J'ai l'impression que je suis coincé à l'intérieur de la tête de Pascal Praud, là. Hein, entre son neurone et la photo de Maurice Papon. Alors, continuons.
C'est un problème de culture. Il y a des pays où ils sont pas habitués comme nous à respecter ceci, à respecter cela. Moi, j'étais à l'école, à l'époque, on n'avait pas peur, on parlait des races. Maintenant, on a peur. C'est à cause des nazis, etc.
Ah oui, alors, les nazis ont fait beaucoup de tort au concept de race. Alors là, pas très sympa, les nazis. Je sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais c'est pas très cool. Mais bon, je vous rappelle quand même que mon sujet, c'est la sécurité. Donc vraiment, j'ai pas lâché l'affaire, parce que des fois, faut tenir le coup. Parlons du trafic de drogue, parce que Pécresse, elle a proposé carrément l'armée dans les banlieues.
Mais dans ce cas-là, moi je pense personnellement qu'il ne faut pas avoir peur et que s'il y a des trafiquants de drogue qui prennent une balle dans la tête, qu'est-ce que vous voulez ? Ouais, ça me fait licher les fonds.
Est-ce que ça ressemble pas à un début de guerre civile, ça ?
Non !
Non, voilà, bah, je suis rassuré, parce que moi, je pensais que ça ressemble plutôt à un très bon reportage de Bernard de la Villardière. Pas de problème. Pécresse a la raison, d'ailleurs, je fais une petite aparté, a la raison de dénoncer le laxisme. Valérie Pécresse, qui porte le même nom que la maman du gamin qui s'est fait choper au lycée avec du shit il y a quelques années.
Oui, c'est vrai.
C'est fou, quand même, hein, les coïncidences, parfois, de la vie, c'est incroyable. Allez, poursuivons. Je crois qu'on va trouver des solutions ensemble pour retrouver de la sécurité et remonter à la source du problème.
L'image du père, ben là, en ce moment, ça en prend un coup, puisqu'on veut mettre à mal le patriarcat.
Ça, c'est pas bien, selon vous.
Oui, un enfant, ça a besoin de s'opposer à partir de l'adolescence à une autorité, hein, surtout les garçons. On peut admirer son père dans un premier temps et après s'y opposer. Hein, c'est ce qui fait une éducation.
Mais est-ce qu'il peut pas admirer sa mère ?
Non.
Non, voilà. C'est clair et net. Et c'est bon, ça. Je le savais, hein, mais bon, je me souviens ce qui me semblait. Donc, il est urgent de réenchanter le patriarcat. Voilà. Jean-Luc Lahaye s'y emploie, par exemple, en attendant le double album de reprise de Michel Sardou. Allez, concluons.
Oui, c'est un danger. Bien sûr, bien sûr.
Mais est-ce que le patriarcat, ça met pas en insécurité les femmes ?
Faut pas exagérer non plus, hein.
Parce qu'il y a beaucoup de violences sexistes, quand même.
Ah mais là aussi, on en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes, bien sûr qu'il y en a, mais il faut pas non plus charrier.
Ouais, les filles ont tendance parfois, c'est vrai, hein, à charrier quand même, elles charrient, donc voilà, il faut être mesuré. Pareil en ce qui concerne l'insécurité climatique, dont on n'a pas du tout parlé au débat de la droite hier, pareil pour l'insécurité fiscale avec les millions détournés des Pandora Papers. Comme d'hab, j'ai l'impression que c'est l'arabe qui cache la forêt des vrais salafistes.
Celle-là, vous pourriez l'utiliser tous les jours.
Oui, c'est vrai.
Elle est valable tout le temps. Merci beaucoup, Guillaume Meurice. On poursuit avec Jean-Christophe Meurice, ce sujet que vous nous avez suggéré d'ailleurs. Le carburant coûte un bras, l'énergie coûte l'autre bras. Les deux tiers du pays aimeraient avoir un troisième bras pour payer les produits de consommation. Donc Jean Castex a annoncé une mesure, une prime inflation d'une valeur de 100 euros, versée une fois d'ici 2022. Et force Castex, il a dû être patron de PME dans une vie antérieure.
Bon, je double le salaire de tout le personnel.
Alors qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton sale pognon ? Les sous, les travailleurs, ils les gagnent avec leur sueur, avec leur travail, avec leur douleur. Tu les achèteras pas avec ton sale argent. Ce qu'ils veulent, c'est le droit à la liberté d'expression, le droit de pouvoir être des hommes, le droit de tenir des réunions politiques sur leur lieu de travail quand ils le veulent.
Oh, minute, la pognon, on s'en fout pas.
T'as raison, si on nous augmente, c'est le principal.
Les discours politiques, on en a rien à foutre.
Surtout pour se faire engueuler par nos gonzesses quand on rentre tard.
Ah, qu'est-ce qu'elle nous fait chier, celle-là, avec ses discours ?
Ouais, le patron, il nous comprend. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des sous.
Ouais, ouais, va te faire baiser, tu nous emmerdes.
Allez, venez ! Vive l'atelier ! Vive l'atelier !
Nicole Calfan, dans Moyenne à vouloir des sous, le film de Jean-Yann qui date de 73. Je ne sais pas si Jean-Yann est l'une de vos influences ou pas.
Mais... Ah si, 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 oui. Beaucoup.
Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes directement concerné ou pas par cette mesure. C'est pour 38 millions de personnes qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Pourquoi cette information et cette mesure vous interpellent, Jean-Christophe Meurice ?
Parce que je trouve ça, je me répète, vraiment cynique. Mais la communication comme ça, politique cynique avant les présidentielles, cette solution, enfin c'est vraiment, je vois la photo avec, on donne un bon repas à un SDF, on prend la photo en même temps avec un sourire jusqu'aux dents. Je trouve ça vraiment, alors qu'on pourrait faire, on pourrait augmenter les retraites, on pourrait augmenter le SMIC, on pourrait baisser le carburant, non. On donne, comment dire, 100 balles et on devrait applaudir ça.
Ça, je comprends. Ou indexer les salaires sur l'inflation, ce qui se fait en Belgique.
Exactement. Ouais. Et puis quand on voit qu'ils vont se récupérer, enfin là, c'est pour moi, c'est le cynisme absolu. Je ne comprends pas comment on peut même accepter ce genre de solution. Enfin voilà, c'est toujours la même chose. C'est Marx qui disait l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Voilà, bon, je suis pas marxiste, hein, mais j'aime bien cette phrase.
Si, quand même. Vous pouvez, Alain Main a dit qu'il était marxiste, donc maintenant tout le monde est, je vous le dis.
Et Darmanin a dit que Zemmour était marxiste.
Tout le monde est marxiste.
Tout le monde peut être marxiste.
Le couple de sexagénaires endettés dans votre film, oui. Celui qui se fait broyer lentement par la société et les décisions politiques,
oui.
Il accueillerait comment ces 100 euros ?
Ben. C'est ça qui est difficile, c'est qu'il les accepterait, mais on peut tout de même. On accepte, il n'y a pas le choix. Il y a pas le choix. C'est-à-dire que si vous donnez de l'argent à quelqu'un qui meurt de faim, il va le prendre pour se nourrir. Mais là, on parle d'une. On essaie de trouver quand même. Normalement, je ne sais plus. Je crois que c'est dans les années. Voter, c'est rêver. Bon, alors voilà, donc, depuis combien de temps j'ai pas rêvé.
Ah oui, effectivement. Et enfin, les Gilets jaunes, ils ont...
Non, c'était le but à la base. Hein. Le vote, c'était pour rêver, c'était le programme politique. Là, c'est rien, c'est des pansements sur une...
Donc les Gilets jaunes, ils ont rien obtenu alors qu'ils ont, à corps et à cri, manifesté pendant longtemps.
Ouais. Bah oui, bah, ça va continuer.
Mais alors, non, soyons optimistes un peu.
Oui,
mais
bien sûr.
On va se démerder.
Trouver une solution. Là, on cherche, on n'a pas encore trouvé Jean-Christophe, mais ça va venir. Alors, Jean-Christophe Meurice, pour analyser votre film Orange Sanguine, nous accueillons un chroniqueur cinéma qui est avant tout aussi scénariste et réalisateur. Voici l'œil de Léo Carman.
Alors, on va danser un petit peu. Salut tout le monde, je suis ravi de venir parler de votre film Jean-Christophe Meurice qui, par sa drôlerie et sa liberté, nous emporte dans un tourbillon duquel, je dois dire, on ne sort pas tout à fait indemne. Peut-être vous aurez reconnu la musique de Pulp Fiction dont on retrouve quelques pulpes dans vos oranges sanguines, notamment cette jubilation du mélange des genres et des histoires mêlant comédie et cruauté. Le film tient de ce petit miracle, celui du clown sur un fil, qui nous fait rire jusqu'à la chute dont la soudaineté nous surprend et nous fait mal, alors que pourtant il ne pouvait pas en être autrement. Mais revenons au swing et au pas de côté. Tout commence dès les premières minutes par les délibérations d'un jury de concours de danse rock amateur qu'on se régale à regarder s'engueuler. Faut-il considérer les danseurs qui boitent de la même manière que les danseurs qui ne boitent pas? Et si on considère tout le monde pareil, pourquoi ceux qui boitent ont le droit de se garer sur une place handicapée? Alors oui, le sujet ne mérite apparemment pas qu'on s'écharpe, et pourtant si, puisque peu importe de quoi on parle, toute occasion de jouir d'un pouvoir sur l'autre est bonne à prendre. Si tout grand pouvoir implique de grandes responsabilités, on oublie souvent que celui donné à un patron sur son employé, ou à un contrôleur sur un voyageur, ou à un serveur vérifier un QR code, ou même encore celui donné à un chroniqueur qui va parler d'un film dans une petite émission, une petite radio très peu écoutée en France... Tous ces petits pouvoirs peuvent avoir un impact énorme. C'est ce que nous montre le film, à travers des portraits qui s'enchaînent et se croisent, tous les personnages cherchent à exister à travers un petit pouvoir que la société leur octroie sur les autres, sans réaliser qu'un choix de vainqueur de concours, un conseil désabusé d'une gynéco pour le premier rapport sexuel d'une jeune fille, un rapport de domination d'un rat des villes sur sa famille de rats des champs, peut provoquer une réaction en chaîne inarrêtable. Mais attention, le film n'oublie pas de parler aussi de ceux qui ont clairement un gros pouvoir et se sentent responsables de rien.
Il faut mettre 22 milliards sur la table. Alors on peut taper sur tout ce qui bouge, mais de la solidarité avant tout. On ne veut pas diviser les Français.
Ah, les seniors sont très très fraudeurs, beaucoup plus que ce qu'on croit.
Il y avait aussi l'aide aux cantines qui peut être supprimée pour les chômeurs. Parce que il y a quand même le nombre d'enfants de chômeurs qui bouffent à la cantine alors que les parents foutent rien à la maison. Enfin, je veux dire, ils sont là, ils peuvent leur faire à manger. Quoi.
Bien sûr. Et si on taxait les avortements?
Là, tu vas trop loin.
Le film réussit cette rencontre entre Tarantino et Piala, ou plutôt comment Piala devient Tarantino, comment après des scènes de vie où le dialogue et l'acteur sont rois, où l'on assiste en riant jaune à ses abus de pouvoir quotidiens et absurdes, viennent les violences inéluctables de ceux qui les subissent et qui n'ont plus que les poings pour se défendre. Car la pire des injustices, celle que vivent toutes ces victimes si proches de nous, est celle de ne pas être entendue. Et quand on crie, encore et encore, et que personne ne nous répond, que nous reste-t-il? Quand on pense que la justice n'est jamais du côté des faibles, que nous reste-t-il? À la manière des Nouveaux Sauvages, le formidable film à sketch argentin réalisé par Damien Chiffron, vos personnages changent de visage, passent de l'autre côté, celui de l'animal se faisant justice lui-même. Pour eux, le choix est simple. Soit on prend les armes, soit on abandonne, allongé main dans la main dans une dernière étreinte, tandis qu'on laisse notre vie partir avant de regarder de là-haut des blouses blanches peinées à démêler les cadavres de nos doigts enlacés. Vous le dites dans le film, à travers une citation écrite d'Antonio Gramsci, « Le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Mais qui sont les monstres? L'arroseur ou les arroseurs arrosés? Le ministre des Finances que l'on vient d'entendre, ou celui qui le séquestre? Le violeur ou la jeune femme qui s'en venge? Tout est dit. À force d'être malmené par les cyniques, les candides finissent par voir rouge. Et dans un monde où règne le déséquilibre, les déséquilibrés ne sont pas forcément ceux qu'on croit.
Any of you fucking bitch move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Léo Carman, merci. L'œil de Léo, vous avez acquiescé donc par exemple la référence que donne Léo, vous avez fait oui, le réalisateur argentin.
C'est... Les Nouveaux Sauvages, ouais, vraiment, c'est un film de chevet, ouais, magnifique film de 2014.
Merci Léo pour cette chronique qu'on pourrait bien sûr réécouter sur franceinter.fr pour ce film Orange Sanguine qui sort en salle mercredi avec notamment Blanche Gardin dans le rôle de la gynéco avant le premier rapport. Ouais. On s'en souviendra de cette scène, comme de beaucoup. Juliette Arnaud, un autre thème pour Jean-Christophe Meurice.
Parce que Noël correspond au solstice d'hiver, c'est-à-dire au moment de l'année où les journées sont courtes et froides et sans lumière, les dieux du divertissement ont inventé le film de Noël. Que des films faits pour sourire niaisement et pleurer niaisement dans son plaid de canapé en se sentant bien. Et puis pas besoin d'être très futé, la morale de l'histoire est toujours bien surlignée et expliquée.
Un jour, le gentil papa, il n'est pas allé au travail et il a décidé de rester avec le gentil SDF. Au bout d'un moment, il est quand même allé au travail, le gentil papa. Et il est tombé sur le vilain chef qui lui a dit de plus venir à son travail, qu'il n'aimait pas. Alors, il est rentré à sa maison et il a dit à sa femme qu'il ne l'aimait pas, de toute façon. Et que son rêve, c'était d'être libre comme l'air, comme son copain d'en bas. La morale de ce conte de Noël, c'est que faut faire gaffe. Parce que même si t'as une vie de merde, il y a toujours une vie encore plus de merde que tu peux avoir.
Alors, c'était pas un vrai film de Noël. C'était Groland. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en regarder des films de Noël? Est-ce que vous voyez à peu près de quoi ils retournent?
Oui, c'est les feel good, quoi, les films.
C'est voilà. Le sommet du feel good movie,
on
voilà.
Au coin du feu, voilà, on sait ce qu'on veut voir et on le voit et on est content de ressentir une chose qu'on a déjà ressentie plusieurs fois.
C'est l'inverse de votre film.
Non, mais c'est bien de le dire parce qu'effectivement, c'est complètement l'inverse et je me méfie aussi de ce type de film un peu feel good parce que j'ai tendance un peu aussi à résister au fait que maintenant, bon, alors c'est un discours un peu naïf sur l'industrie du cinéma, mais quand même, c'est bon de le rappeler aussi que à un moment, un film ne doit surtout pas être rassurant. Voilà. Donc, un film doit être dérangeant. Picasso disait, l'art est dangereux. S'il devient chaste, alors ce n'est plus de l'art. Donc, en même temps, moi aussi,
bon,
je
attends,
pourrais...
Picasso n'a pas que dit des choses intelligentes.
C'est vrai, mais celle-ci, en tout cas, celle-ci, elle l'est.
Et... Cancel Picasso!
Et non, mais en ces temps où il y a beaucoup de frilosité par rapport à des audaces cinématographiques, Je me méfie maintenant de toutes les classifications qu'il y a, les genres. Et effectivement, mon film a plusieurs genres, plusieurs tons. Et ce qui fait que ça peut être comme un peu les montagnes russes. Mais encore une fois, c'est ça pour moi, le cinéma, c'est une vraie expérience qu'on doit avoir et on ne doit pas être trop rassuré par ce qu'on doit voir.
Sauf que vous aussi, vous vous intéressez aux émotions, parce que moi je vous ai entendu dire en interview que ce qui comptait pour vous, c'était de susciter des émotions chez les spectateurs. Sauf que ce n'est pas les mêmes émotions. Vous pensez plus, par exemple, au désir ou à la peur, voire l'effroi. C'est des choses qui vous intéressent.
C'est ce que je ressens, moi, quand je tourne ou quand j'écris ou quand je monte et je tiens à le retranscrire, à le montrer en espérant que chacun va revivre ces émotions-là de manière différente parce que l'histoire de chaque spectateur est différente. Mais effectivement, avant tout, j'aime être pris par plusieurs émotions paradoxales à la fois. On dit bien pleurer de rire. Et voilà ce qui fait que c'est un film qui est très caméléon et qui peut qui peut effectivement.
Mais il endosse parce qu'il endosse plusieurs identités en fait et il met le spectateur en devoir de voir lui aussi, y compris une identité qui est quand même un peu dangereuse, c'est le revenge movie, c'est-à-dire le film de vengeance qui d'habitude est toujours porté par un homme.
Oui, moi j'essaye de réconcilier la comédie familiale et le film de revanche. Et je trouve que c'est un beau projet audacieux et pour le coup, non, mais c'est vrai. Moi, je tenais à dire cette petite anecdote par rapport au film qui va sortir mercredi. C'est que on m'a dit là hier que Albert Dupontel, quand il a fait Bernie, alors je le connais pas personnellement, mais on le convoquait. Donc, je vais pas dire le nom des productions. On le convoquait pour dire non seulement on va pas t'aider pour faire ce film, mais tu ne dois pas faire ça. Alors après, on connaît l'histoire de Dupontel et ses films et tout ça, mais il m'arrive ça, il m'est arrivé ça pour monter Orange Sanguine, et donc voilà, c'est pour dire qu'à un moment aussi, j'espère, il faut se renouveler, il faut essayer autre chose et il faut pas être que dans le film de Noël.
La liberté.
Sans vouloir mettre une mauvaise ambiance. Je vois bien que j'ai une mauvaise ambiance.
C'était pour ça qu'on vous proposait ce
film de Noël.
Maintenant, on a un sketch à vous proposer.
Je voyais que vous adoriez les films de Noël, donc je ne voulais pas. Non, je suis très sombre, je ne crois plus à la gauche, j'aime pas les films de Noël. Et je vais vous quitter, on vous emmerde, j'ai l'impression.
Juliette, on va vous proposer un sketch. Parce qu'Arnaud Montebourg vient de vivre une semaine difficile dans sa campagne présidentielle. Alors, on a imaginé qu'il était allé voir sa psy. Jean-Christophe,
vous voulez que je fasse l'acteur et que je lise les choses?
Vous avez une formation de comédien, vous êtes Arnaud Montebourg, Charline Lacy.
Vous connaissez tout de moi.
Et peut-être y aura-t-il.
Il a fallu attendre 17h57
un autre intervenant.
Vraiment qu'on parle de ça.
Alors, monsieur Montebourg, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici?
C'est simple, dès que j'essaye de faire un truc, je le gâche.
Oh, vous êtes dur, vous avez bien réussi certaines choses dans la vie, non?
Oui, ma photo en marinière avec mixeur Moulinex.
Mais enfin, vous avez tout de même été un homme fort du PS.
Et il est dans quel état, le PS?
Ah oui, vous avez été ministre aussi.
Oui, je me suis fait virer sur une blague, la cuvée du redressement.
Oh là là là, là c'est vrai. Bon, et votre miel, formidable votre miel, non?
Bof, même les abeilles m'ont collé un préavis de grève.
Oh là 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 là. Et votre campagne présidentielle alors, la remontada?
La plantada.
Ah oui.
Je viens de me saboter avec une idée de droite toute pourrie.
Une idée de génie, tu veux dire?
Hein? Quoi? Qui me parle?
Je suis ton surmoi, Nono. T'es le seul à m'entendre, là. Je dis tout ce que t'oses pas avouer.
Ah, mais foutez-moi la paix.
Bah, tu te dis de gauche, mais on sait tous que t'es de droite.
Mais non, je ne suis pas de droite, enfin.
Ah, ouais, regarde-toi, ta façon de parler. Quand on t'écoute, on entend plus Giscard que Jaurès.
Hein. Non, je suis un pur socialiste. J'étais colleur d'affiche pour Mitterrand en 81.
Ah, voilà, c'est parce que je dis t'es de droite.
Monsieur Montebourg, vous êtes toujours avec moi, là? Bon, alors, qu'est-ce qui vous a poussé à droitiser votre campagne?
L'envie de gagner, peut-être.
Et j'en sais rien, moi. Je ne sais pas d'où viennent mes propos de droite.
Des conseillers Sarkozy de ton équipe de campagne, non?
Ah oui, peut-être, mais c'est parce que je prône l'ouverture. C'est de gauche, ça.
Ouais, enfin, sauf quand on ouvre qu'à droite, hein. C'est mal.
Mais non, c'est pas vrai.
Monsieur Montebourg, vous vous sentez vraiment de gauche?
Mais oui, je suis un homme viscéralement engagé à gauche.
Oui, alors racontez-moi votre engagement à gauche.
Quand je vois une petite vieille dans la rue, je l'aide à traverser.
Oui, alors ça, Estrosi le fait tous les jours à Nice.
Si, j'ai apporté des croissants aux salariés de Florange.
Des croissants?
Oui, quand ils étaient en difficulté à deux doigts de la faillite, je leur ai offert quelques viennoiseries.
Bah super, le chien du petit déjeuner.
Génial. Et voilà. Merci beaucoup Jean-Christophe Meurice.
Il restait encore du texte, hein?
Oui, mais on manque de temps malheureusement.
Et c'était nul la fin pourtant.
J'appelle votre film Orange Sanguine sort en salle mercredi. Merci beaucoup Jean-Christophe Meurice. Et je vous dis à demain, nous recevrons Tay Calenda et Léa Michaelis, deux colleuses du groupe Collage Féminicide Paris, deux militantes qui collent les slogans sur les murs en lettres noires, vous savez, sur les feuilles A4.
Quel genre?
Bah des phrases choc, quoi.
Quel genre?
Genre des phrases choc. Ah.